présentés aujourd'hui comportent bien des aspects satisfaisants. Mais quand on compare les ratios des budgets primitifs de 2012, 2013 et 2014, on constate que l'encours de la dette par rapport à la population, le ratio 5, a été multiplié par 3 en 3 ans, avec un encours de la dette par rapport aux recettes réelles de fonctionnement, le ratio 11, multiplié par presque 3. Notre marge d'autofinancement, le ratio 9, est bien moins haut. On passe de 89 à 96%, ce qui nous rapproche beaucoup de la moyenne nationale de la Stratégie. Avec le ratio 7, on voit que nos dépenses du personnel par rapport aux dépenses réelles de fonctionnement représentent 43% et restent certes inférieurs à la moyenne nationale de la Strat, mais c'est encore trop élevé, malgré les charges nouvelles imposées. Les charges de personnel et frais assimilés au chapitre 12, page 4, sont en augmentation de 3%. Et les frais de colloques et séminaires sont doublés au chapitre 6185 de la page 9. Quels sont les projets qui s'y représentent? Au chapitre 6288, à la page 9, à quoi correspond haute sectorielle pour un montant conséquent de 356 000 qui est en augmentation? Nos dépenses réelles de fonctionnement par rapport à la population, le ratio 1, sont de 30% au-dessus de la moyenne nationale de la Strat, mais raisonnable, puisque nos recettes de ratio 3 sont également supérieures de 22% par rapport à la moyenne nationale de la Strat. Nous ne pouvons que nous réjouir des faibles recettes reçues des Courbevoisiens, inférieures de 30% à la moyenne nationale de la Strat, visible avec le ratio 2, et que notre pression fiscale, le ratio 8-10, soit exceptionnellement très faible par rapport à la moyenne nationale, 60% de moins de la Strat nationale grâce aux entreprises de la Défense qui nous rapportent d'énormes recettes. Cela nous permet de maintenir des taux bas de taxes d'habitation foncière bâtie et non bâtie par rapport à la moyenne nationale et aussi inférieure par rapport à la moyenne départementale dont bénéficient les Courbevoisiens grâce à notre situation géographique. Si nous regardons maintenant la présentation croisée par fonction à la page 19, parmi les postes qui augmentent leurs dépenses, nous sommes satisfaits de voir le poste sécurité et salubrité publique, colonne 1, augmenter très sensiblement par rapport au BP précédent, car Courbevoie en a besoin pour rester une ville agréable à vivre. Parmi les postes qui baissent leurs dépenses, la famille, à la colonne 6, représente 3% et a baissé d'1% par rapport au BP précédent. Pourquoi? À la colonne 25 de la page 23, les aides aux associations non classées ailleurs, de 1 179 000, de quoi s'agit-il précisément? Le train de vie de notre commune, visible à la colonne 1 des services généraux des administrations publiques locales, à la page 19, reste élevé, presque 30% des dépenses totales, bien qu'il ait baissé par rapport au BP 2013. En conclusion, bien que ce budget primitif soit satisfaisant sur beaucoup de points, nous votons contre, car la tendance ne va pas à l'économie et accélère l'endettement de notre ville. Nous pensons que Courbevoie pourrait faire beaucoup mieux, compte tenu de l'avantage exceptionnel de la défense pour notre commune.
Merci. D'autres prises de parole? Bon. Monsieur Gimenez.
Bien, alors j'essaie de vous répondre sur les points essentiels qui ont été abordés, je ne vois pas de polémique, très peu, plus ou moins. Sur le plan pluriannuel d'investissement et notamment les autorisations de programme, vous avez commencé sur ce point-là. Je trouve que vos collègues n'ont pas été très sympas, parce que comme vous êtes nouveau conseiller,
Monsieur Thomas.
Ils auraient pu vous prévenir que l'opération Adélaïde, qui est effectivement inscrite 2008, a été bloqué, et tout le monde le sait, tous les anciens élus de Châle, a été bloqué pour des raisons techniques de disponibilité des terrains et d'impossibilité, donc nécessité d'exproprier les personnes qui sont encore propriétaires de quelques. Voilà, moi, ce soit été fait volontairement, ce qui est fort probable d'être.
La prévision
quand vous annoncez que les projets n'avancent pas, je pense très, les deux collègues que vous avez, je pense, la vue d'As. Je vous engage, à vous promener dans, dans la ville de Courbevoie avec des courbevoisiennes bien informées pour voir tous les investissements qui ont été réalisés sur notre ville au cours de ces dernières années et pour voir également les différents projets qui actuellement sont en cours de réalisation ou de finalisation. Je pense que un simple tour de la ville vous permettrait de pouvoir prendre connaissance de l'ensemble de ces projets. Faites-le à pied, vous aurez plus de temps de le faire. Sur certaines autorisations de programme, je pense qu'on va faire une redite par rapport à ce que nous avons débattu lors du débat d'orientation budgétaire, puisque nous avions parlé des priorités en termes de réaménagement du parc de Bécombe. Je pense que ce n'est pas inutile d'y revenir. Le débat avait été, je pense, relativement clair. Les réponses vous avaient été données quant aux objectifs de la ville et les projets en la matière. Concernant les travaux de restructuration de l'hôtel de ville, pareil, vous y revenez, mais j'avais déjà répondu, donc je pense que ce n'est pas la peine d'y revenir de nouveau. Vous avez noté un certain nombre de variations dans les autorisations de programme. Il y en a certaines, effectivement, vous n'avez pas citées. Je pense notamment au réajustement du gymnase Pompidou, qui est une ancienne inscription, et que nous avions volontairement retardé dans la mesure où nous attendons naturellement que cette construction du nouveau gymnase se fasse de manière intelligente avec la livraison du nouveau lycée international du CIOBRAC qui sera contigu et pour lequel d'ailleurs nous aurons un financement. Vous avez oublié de signaler effectivement un certain nombre d'autorisations de programme, peut-être que validez-vous, qui concerne notamment les travaux relatifs à la poursuite de l'aménagement des espaces rue de Beson et rue de Marceau, qui a tout bien sens, qui est quand même quelque chose qui est attendu, qui est positif pour l'utilisation des espaces publics, ainsi que également les inscriptions qui ont été faites au niveau du contrat de performance énergétique afin de pouvoir le dérouler. En ce qui concerne le SCRIF, le montant du SCRIF ne nous est pas encore notifié. Son plafonnement, qui était de 10% du montant des dépenses de fonctionnement, est passé à 11% du montant des dépenses de fonctionnement. Mais vous semblez oublier, mais peut-être l'avez-vous fait exprès, que le détail de la composante du SCRIF, sur lequel je ne voudrais pas trop m'étendre parce que c'est un petit peu compliqué, le calcul a été complètement revu. Le calcul de ce prélèvement, qui est un prélèvement exclusivement communal, qui ne touche pas les intercommunalités, son calcul a été modifié récemment. Il vise, avec d'ailleurs un peu plus d'équité, ce qui pourrait nous permettre effectivement d'espérer que, malgré le plafonnement à 11%, le montant dont la ville de Courbevoie serait éditrice ne soit pas forcément en augmentation. Je vous rappelle qu'il frappe déjà les communes dont le fonctionnement, dont le potentiel financier, je dis bien, est supérieur à la moyenne régionale, mais qu'également que ce reversement est maintenant fondé sur un système d'indices de ressources et de charges qui sont également basés sur le potentiel financier, sur la part de logements sociaux dans la famille, dans la ville, pardon, excusez-moi, la part de logements sociaux dans la ville, et Courbevoie n'a pas à rougir en la matière, et également par le revenu par habitant. Donc tous ces éléments qui donnent des calculs relativement compliqués. Donc nous sommes en attente des notifications par les services de la région, font que nous pouvons envisager, malgré l'augmentation du plafonnement de 10 à 11%, que le SCRIF de la ville de Courbevoie soit à peu près identique à quelques dizaines de milliers d'euros à celui que nous avons connu en 2013. Et, excusez-moi, je ne vais pas faire de satisfaction, mais il y a eu un travail très important qui a été réalisé au sein notamment de Paris Métropole, qui a été à l'initiative de tout un tas de débats dans lequel M. le maire s'est particulièrement impliqué en tant que membre du bureau de Paris Métropole, qui a visé, effectivement, en répondant, comme vous l'avez dit justement tout à l'heure, la recherche d'augmentation, effectivement, de ces dotations qui étaient programmées, c'est bien clair, il visait à ce que ces prélèvements soient dorénavant effectués auprès des communes d'une manière plus juste que ce qui se passait précédemment, où il y avait un certain nombre de villes riches qui ne contribuaient pas. Et donc, maintenant, ces villes qui contribuent font que la mutualisation de ces prélèvements nous semble effectivement beaucoup plus juste qu'il ne pouvait être par le passé. Voilà donc la raison pour laquelle le SCRIF a été maintenu au même niveau. Maintenant, vous pouvez en conclure ce que vous voulez, est-ce que vous avez sincère ou pas l'enseignement. Enfin, voilà en tout cas notre position. Je vous rappelle également, en ce qui concerne les différentes dépenses que vous avez vues, notamment au niveau de la représentation des élus, que notre ville a eu un effectif de population qui a été significativement augmenté au cours de ces dernières années, qui est à peu près 90 000 habitants. Et il ne nous semble pas anormal, comme le conseil municipal l'a décidé lors de la séance du 29 mars dernier, de doter la ville d'adjoints de quartier. Et donc, ces adjoints qui viennent compléter effectivement le nombre d'élus indemnisés pour leurs fonctions ne semblent pas particulièrement choquants du fait du besoin que ressent la municipalité pour avoir des contacts de plus en plus proches encore avec les communes. La réforme des rythmes scolaires. Ne mélangeons pas tout, vous l'avez fait exprès encore une fois. 2,5 millions d'euros de budget par an. Je vous rappelle que la réforme des rythmes scolaires ne prend effet que pour septembre 2014. On peut faire un petit calcul, 2,7 millions pour cette année. On est uniquement sur 4 mois. Le budget du Val a une subvention qui progresse de l'ordre de 490 000 euros, je peux mettre en tête. Le budget du Val, l'an passé, avait dégagé, l'administrateur du Val pourra le confirmer, a dégagé un excédent de l'ordre de 100 et quelques mille euros, 250 000 euros de mémoire. Donc cet excédent a été reporté sur l'exercice 2014, nous permettant ainsi donc de pouvoir réduire d'autant, de pouvoir maîtriser d'autant la dotation. Le CCRS, la dotation de la ville au CCRS, nous n'avons pas à rougir de cette dotation. 2,070 000 euros attribués. Certes, il avait été voté 2,3 millions l'an passé. Le budget CCRS, vous verrez lorsque les comptes seront présentés aux représentants auprès de cet établissement, dégagera aussi un excédent. Vous verrez votre précédent collègue, vous le confirmez. Il y avait effectivement sur ce budget, notamment sur la masse salariale, des postes qui n'ont pas été engagés du fait qu'ils avaient été budgétés avec un peu trop de précautions. Concernant maintenant, je vais profiter pour répondre de manière générale sur les observations qui ont été faites en ce qui concerne donc les différents postes budgétaires, notamment Mme Partout. Je remercie Madame en tout cas des observations positives que vous avez faites. Je vais vous répondre de manière très générale. Je vous demanderai, bien évidemment, si vous êtes d'accord, de nous transmettre vos questions auxquelles on répondra très précisément à chacune des lignes que vous avez soulevées lorsque le règlement intérieur du Conseil municipal sera voté. Les commissions pourront être constituées, notamment la commission finance, donc tous ces éléments de détail pourront être débattus lors de la commission finance préalable à la tenue des conseils municipaux. Donc, soyez gentils de faire passer au cours de ce détaillage général vos questions et nous y répondrons bien volontiers point par point. D'une manière générale, je voulais juste informer, je sais que vous l'avez noté, que globalement, le budget, les charges de fonctionnement de la ville n'augmentent que de 2% dans un contexte qui est relativement contraint, avec des nouveaux services qui sont proposés aux courbevoisiens, avec l'ouverture de nouveaux équipements, même si ça se fait que sur une partie de l'année. Donc je pense que nous pouvons, autour de cette salle, nous satisfaire de cette bonne maîtrise globale de notre fonctionnement. Une masse salariale qui augmente de 2,9% compte tenu des éléments qui ont été cités et débattus lors du débat d'orientation budgétaire montre qu'effectivement, là aussi, nous avons une parfaite maîtrise de notre masse salariale. Sans préjuger, sans perturber pour autant le bon fonctionnement de nos services, mais tout simplement en optimisant, on peut faire ce que peut, et chaque fois c'est possible, le bon fonctionnement, en plaçant nos agents fonctionnaires en liaison avec leur direction, là où c'est nécessaire et là où c'est utile à la population et au bon fonctionnement des services. Les autres postes sont totalement également maîtrisés. Et donc, si on se réfère effectivement le total le sous-total du budget, c'est-à-dire qui concerne la rubrique qui s'appelle dépenses de gestion des services, donc qui englobe la totalité des coûts de la gestion des services, nous avions au budget primitif 2013 150 228 000 euros. Nous allons voter aujourd'hui un budget de 150 728 000 euros, donc avec une augmentation de 500 000 euros. Excusez-moi, mais je pense que très franchement, nous pouvons vous pouvez faire toutes les observations que vous voulez. Je pense que les dépenses fonctionnement de la ville sont parfaitement maîtrisées, comme les chiffres ici peuvent le faire ressortir. En ce qui concerne la fiscalité, alors, bon, ben je crois qu'il faut lire ce qui est dit. Jamais l'équipe municipale et les Courbevoisiens le savent très bien. Les Courbevoisiens savent très bien que les personnes, les candidats qui ont pu annoncer 0% d'augmentation d'impôts, vous savez très bien que ce n'était pas possible, surtout dans le contexte dans lequel nous vivons actuellement aujourd'hui sur le plan de la fiscalité. L'augmentation de la fiscalité qui est proposée à 3,5% aura un impact, somme toute, relativement très, très limité sur les ménages, puisqu'il faut quand même ramener les choses à une juste valeur. La taxe d'habitation, la variation du taux de taxe d'habitation va générer un complément de taxe d'habitation de 533 000 euros. L'augmentation du taux sur le foncier va augmenter une augmentation de la fiscalité de 780 000 euros. Donc c'est vous dire si, donc environ 1 300 000 euros, c'est vous dire si par rapport au budget, ceci est relativement peu significatif. Maintenant, si nous ramenons tout cela à un coût par foyer, vous savez, c'est très facile à faire. En ce qui concerne la taxe d'habitation, l'augmentation sur un an va représenter pour un foyer, une personne seule qui habite dans le quartier de Bécon, une augmentation de 4 euros. Pour un couple marié qui habite dans le cadre de centre-ville, qui paye une taxe d'habitation avec un enfant, ça va générer une augmentation de 1,07 euros par mois. Et pour un couple avec deux enfants qui habite dans le quartier du Faubourg de l'Arche, cela va entraîner une augmentation de 9 euros pour l'année. Donc, je pourrais vous faire le même calcul, mais je ne peux pas vous assainir de chiffres. D'autres personnes s'en chargent. C'est pas sur ce plan-là, je crois, où il y a de bonnes entendre de nos électeurs, croyez-le bien. Les Courbevoisiens, d'une manière générale, le savent bien. Nous avons pris pour que la fiscalité de notre ville reste parmi les plus basses du département, et voire même les plus basses de France. Nous tiendrons cet engagement. Et nous savons aussi gérer, et nous savons gérer, et ce n'est pas en faisant fuir les entreprises de la défense qu'on pourra correctement gérer la ville et maintenir une fiscalité privilégiée, comme certains candidats l'ont prévu, l'avaient levé dans l'antisemitisme. Donc, je voulais maintenant revenir sur la dette. On ne va pas refaire des redites, on a l'impression qu'on va revenir sur ce qu'on a déjà dit lors de notre, lors du dernier conseil municipal, les 2 430 € par habitant, qui est la moyenne nationale de l'endettement par habitant pour les communes de plus de 50 000 habitants, communes non membres d'une communauté d'agglomération, c'est-à-dire des communes sur lesquelles pèse une commune sur laquelle pèse la totalité de l'endettement. Son endettement n'est pas partagé avec la communauté d'agglomération. Donc, on voit à 2 430 €, vous ne savez pas où le trouver, je vais vous indiquer où le trouver. Vous pouvez aller au Bige, il y a des ordinateurs connectés. Vous pouvez www.finance.gouv.fr/commune/encours-tableau.php et vous tombez sur le montant de l'endettement. Je vous donnerai le lien, 2 430 € pour les communes de non adhérentes à une communauté d'agglomération. Je confirme le chiffre toujours par le même lien, 1 568 € pour les communes adhérentes à une communauté d'agglomération. Effectivement, Courbevoie adhère à une communauté d'agglomération, mais notre communauté d'agglomération Seine-Défense n'est pas endettée. Donc, comparons des choses comparables. Pour qu'il n'y ait plus de débat en la matière, dorénavant, nos services indiqueront sur les comparatifs, comme d'ailleurs ça figure sur le BP. Sur le BP, vous voyez d'ailleurs sur le document officiel du BP, figure bien le ratio des communes adhérentes à une communauté d'agglomération. Mais sur les documents internes, pour permettre, nous rajouterons en plus, en essayant de ne pas trop les compliquer dans la lecture, pour qu'il reste clair, nous rajouterons effectivement la référence aux communes adhérentes à une communauté d'agglomération. Bien, je pense avoir répondu, monsieur le maire, à un certain nombre de questions.
Merci.
Il y a d'autres questions, je prends un plaisir de
bien. Oui. J'aurais aimé juste reprendre la parole rapidement. Sur un certain nombre de points que je reprends effectivement aussi dans l'ordre. Il n'y a déjà pas eu, alors ça peut se comprendre, de commission des finances. C'est la première fois, vous n'en êtes pas responsable non plus. Sachez que nous, on a l'ensemble des liasses de documents 5 jours à l'avance. Et donc on essaye de regarder les grandes masses et les choses les plus signifiantes. En ce qui concerne déjà le fonds de péréquation Île-de-France, nous avons un tableau officiel, je pense qu'on pourrait échanger nos emails et vous envoyer un tableau qui est de la Direction Générale des Collectivités Locales.
Je vous donne rendez-vous dans le même bureau, n'est-ce pas ?
Et on a réellement un tableau qui dit que la dotation aux collectivités locales 2014 au titre du fonds Île-de-France est de 14 181 420 euros. Donc, par contre, effectivement, si ce document, effectivement, était en fait, ne prenait pas compte d'ultime négociation et que vous arriveriez à maintenir le niveau, ce serait tout à votre honneur. Ensuite, un point sur la réforme des rythmes scolaires, on a quand même beaucoup parlé. Le budget global, enfin le budget principal impacté, a augmenté de 1%. Alors là encore, je ne compare pas par rapport au budget de l'année dernière, mais je compare par rapport à votre compte administratif prévisionnel qui était dans votre plan pluriannuel d'investissement, c'est-à-dire votre vision quasiment définitive de l'année réellement écoulée 2013. Donc c'est en basant sur vos chiffres, je compare votre budget 2014 par rapport à ce qui va être très vraisemblablement le réalisé 2013. L'augmentation pour le VAL est de 1%. 1% c'est à peu près 130 000 euros. Donc je réitère, 130 000 euros n'ont rien à voir avec 4 mois d'une hausse de 2,7 millions. 4 mois d'une hausse de 2,7 millions, c'est à peu près 1 million d'euros. Donc vous annonciez qu'on pouvait s'attendre du coup à une hausse de 1 million d'euros de ce poste pour les surcoûts de la réforme des rythmes scolaires, on n'en voit que 130 000. Un autre point, pour le CCAS, là aussi je voulais juste mettre en exergue, que je compare là aussi ce qui va être très vraisemblablement votre réel 2013. Le réel 2013, la dotation de financement pour le CCS était de 2 160 000, elle diminue à peu près à 2 millions. Donc il y a une baisse tout à fait sensible d'une dizaine de pourcents. Le budget de fonctionnement, là, si, enfin, là je prends vos commentaires au fur et à mesure, le budget de fonctionnement, donc là on parle des très grandes masses, on parle quand même effectivement des lignes principales de ce budget. L'augmentation est à peu près de 4 à 5%, c'est 4 ou 5%, encore une fois, entre le réel 2013 tel que vous l'annoncez dans votre compte administratif prévisionnel et le budget 2014. Donc ce n'est pas du tout l'épaisseur du trait et ça se compare par rapport au réel 2013. Un autre point, tout de même, ne pas augmenter les impôts était impossible. Ça, c'est quand même, enfin il faut le... Moi ça m'interpelle, et enfin quand même, le volontarisme politique peut jouer, et pas intéressé, pas partisane, nous vous conseillons réellement de grouper, de faire une politique groupée des achats. Paris a réellement gagné énormément. Nous pensons que dans le contexte actuel très dur pour les citoyens, on ne peut pas admettre que la hausse des impôts était impossible à éviter. Et donc un dernier point, tout de même sur la taxe d'habitation, moi je compte que la taxe d'habitation va augmenter d'à peu près 2 millions d'euros. 2 millions d'euros pour 90 000 habitants, c'est des ratios très simples, mais la simplicité permet aussi de ne pas se perdre dans les chiffres. Ça fait à peu près une vingtaine d'euros par an et par habitant. Ce n'est pas. Alors il peut y avoir la hausse du nombre d'habitants, mais en gros, on parle quand même d'une vingtaine d'euros par an et par habitant. Voilà, donc c'était juste quelques points que je voulais dire. Merci.
Sur le plan des groupements de commandes, des groupements de commandes, mais justement, sur le plan des groupements de commandes, c'est peut-être que vous avez pris le courant, mais au cours des dernières années, groupements de commandes ont été effectués, notamment avec l'Esco Colombe, sur un certain nombre de points, sur la dernière, etc. Donc, oui, chaque fois que c'est nécessaire, chaque fois que c'est cohérent avec le Valois, donc nous effectuons effectivement un certain nombre de dépenses en commun. De moins en essayant effectivement de les optimiser sur des synergies. Et je vous redis une dernière fois que globalement, le budget de fonctionnement de la ville n'est pas délirant. L'augmentation n'est pas délirante, l'augmentation est totalement maîtrisée, alors que nous subissons effectivement un certain nombre d'augmentations, notamment significatives, que nous avons réussi à amortir. En ce qui concerne le périmètre scolaire, effectivement, le montant que vous avez annoncé est bien indiqué sur le document budgétaire. J'ose espérer que l'État tiendra ses engagements avec les versements de dotation. Et aujourd'hui, rien ne nous permet d'inscrire sur le budget, car nous n'avons aucune notification officielle et définitive de l'État concernant une recette relative au rythme scolaire. Enfin, la dotation, donc, le précédent ministre, qui n'est plus, s'était engagé. D'autre part, une partie des dépenses, effectivement, la totalité des dépenses liées au rythme scolaire ne sont pas sur le budget, il y a une partie qui est sur la ville, notamment tout ce qui concerne la pause méridienne, et toutes les opérations relatives pour la pause méridienne, les cantines, etc. Donc tous ces éléments impactent à la fois le budget de la ville et le budget de ville également. Sur la fiscalité. Je crois que je ne voudrais pas redire ce que j'ai déjà dit il y a quelques instants. Nous sommes une ville qui a des dépenses, qui a une population qui a des besoins, que la ville fait en sorte de faire. Nos voisins aujourd'hui sont globalement très satisfaits de la manière dont la ville est gérée. Les services qu'ils reçoivent, qui sont mis à leur disposition, et beaucoup sont également en attente de nouveaux services qui vont être livrés, notamment en 2014, grâce aux investissements qui ont été réalisés. Voilà ce que je veux dire.
petit point, si vous pouviez mettre le lien et vraiment la précision, parce que franchement, ce tableau-là, en l'état, il est quand même trompeur. Je pèse mes mots. Donc, la précision et le lien, s'il vous plaît.
On va passer aux questions. On va passer au vote du budget. Je vais proposer un vote unique. Budget. Qui s'abstient ?
Alors, oui, sur le
budget.
Pas les
Alors, ça tient. Qui est contre ? Merci. Ouais. Sur vers ces associations dans le cadre du budget, c'est bien ça.
Oui. Nous nous abstiendrons sur la subvention concernant le centre culturel pour la simple et bonne raison que la Chambre régionale des comptes a fait part dans une situation de délit pénal puisqu'il s'agit d'une gestion de fait. Donc nous nous abstiendrons sur le budget du centre culturel et nous aimerons savoir comment est-ce que vous comptez sortir de cette situation de délit pénal.
Comme vous avez dit, M. Yves-Jean, on travaille toujours sur STL, on avait dit ça, et éventuellement une scène, on va essayer quelque chose à étudier. Quand ça sera certainement assez rapidement pour sortir justement de cette activité.
Il y avait un audit qui avait été un cabinet qui était
justement c'est pour ça
venu, qui avait fait des propositions.
On reprend ces propositions pour faire.
C'est une observation que nous avions eue il y a déjà longtemps et nous voyons qu'il n'y a pas d'évolution à ce jour. Donc voilà.
Donc vous avez fait. On passe au vote encore.
On a ça fini. Non, on n'a pas fini. Bon. On avait une question sur les subventions. Sont versés des représentants des parents d'élèves.
Oui.
On constate donc qu'il y en a une qui reçoit 1200 euros, une autre qui en avait demandé 1000 à la CPE qui ne reçoit que 700 euros. On voulait savoir d'où est la différence, quelle est la logique qui est derrière, ce qu'elle nous surprend. Soit il y a des indicateurs, des critères qui sont différents, mais on a un petit peu nous éclairer. Vas-y.
Alors la différence vient simplement du fait que la PEP organise plusieurs manifestations au cours de l'année et donc ils ont besoin de plus de subventions alors que la FCPE ne le fait pas.
Ça représente le différentiel de 500 euros.
C'est ça à peu près.
Donc toutes les associations de parents d'élèves recevraient normalement 700 euros.
Et bien si vous regardez, la LIP, qui est une association indépendante, reçoit 700 euros.
Indépendamment de
c'est 700 euros.
Donc, ce qu'il faut faire, c'est inviter toutes les associations de parents d'élèves d'organiser des activités pour qu'il y ait une augmentation de la subvention.
Ça dépend de quelle sorte d'activité, monsieur, si. Ça dépend de quelle sorte d'activité. Je pense que l'activité telle que la bourse au vote pour les gens de dépôt, c'est une activité qui demande de l'argent, de l'investissement, et qui, de ce par-là, revêt simplement le montant de cette subvention.
Qui aide beaucoup les parents.
Et qui aide les parents.
Donc, le principe est clair, M. Assert, c'est-à-dire toutes les fédérations de parents d'élèves qui demandent une subvention.
Mais pas tout à fait, c'est ce qu'elles ont souhaité.
Oui, mais elles ont le même montant de subvention. En revanche, le montant
700
supérieur,
euros pour tous.
Le montant supérieur tient à des questions d'activités supplémentaires. Si les activités supplémentaires sont pour regarder la prochaine, la question à l'autre. Par ailleurs, vous savez très bien, les différentes fédérations de parents d'élèves sont concertées de la même façon en permanence.
Apparemment, pas tout à fait, puisqu'il y a des demandes qui ont été formulées et qui n'ont pas été obtenues. Je pense que 700 euros pour les subventions de parents d'élèves, pour les associations de parents d'élèves, pardon, c'est bien peu au regard de leur contribution, notamment dans le cadre des concertations à venir. Et donc, voilà. En tous les cas, il avait été demandé 1000, là 700. Je ne sais pas qu'est-ce qui avait été demandé par la troisième d'ailleurs, parce que c'est un point qu'on avait soulevé la fois précédente sur les demandes de subventions.
La LIP avait demandé beaucoup plus, et aussi, on n'a pas accès à 6%. Par ailleurs, c'est une question que nous avons, en discutant avec les fédérations françaises, autre point, il il y a un principe qui dit qu'une association doit bénéficier de l'intégralité de la subvention qu'elle demande. Ça serait un principe qui serait contraire au principe de bonne gestion.
On est d'accord, mais il y a ça. Les principes de gestion, ce sont les priorités, M. Spiri, et je pense que c'est un corps intermédiaire prioritaire, surtout dans le cadre de la réforme qui sera appelée à jouer un rôle important dans les concertations à mettre en place, à la fois pour les scolaires, mais au-delà.
C'est pour ça qu'encore récemment, nous avons attribué bénévolement, gratuitement des salles aux fédérations de parents d'élèves pour se réunir.
C'est tout à fait.
Nous facilitons la vie de ces associations.
Beaucoup d'autres associations mises à disposition de salles avec des subventions plus importantes. Donc, je voulais juste sur les demandes de subventions, ce qu'on avait déjà demandé, ce qui serait bien, parce que ça vous éviterait les quelques plages horaires qui sont allouées pendant la journée de travail, de pouvoir avoir le montant demandé par l'association et le montant versé dans les tableaux pour les associations. Ça vous aiderait grandement. On l'avait déjà demandé.
Ça figure dans les dossiers.
Oui, bien sûr, vous examinez les dossiers bien près. Alors, sinon, il y avait une autre intervention sur une autre association, c'était plutôt une question.
Oui, en fait, ça concerne la question des commerçants de Courbevoie qui demandent une subvention. Concernant Courbevoie qui demande une subvention de 30 000 euros. J'ai fait un tour sur leur site web aujourd'hui. Alors, information sur le bureau, néant, projet, néant, lettre d'info, néant, annuaire, quasi néant. Page d'activité, dernière activité, 21 mars 2013. Offre du moment, néant, événement et activité, 2010, la dernière date. Donc, est-ce que ces 30 000 euros vont servir à créer un site web, faire quelque chose, je ne sais pas, c'est une question.
Concernant l'association des commerçants de Courbevoie, c'est la
centre-ville,
là aussi je ne peux que vous engager à aller voir et à examiner en détail, et vous pourrez le faire si vous n'avez pas le temps de le faire pour l'instant, leur dossier de demande de subvention qui est parfaitement ciblé sur un projet, alors que leur site internet ne soit pas tout à fait efficace et en fonctionnement, c'est peut-être probable, peut-être aussi tout simplement parce qu'ils utilisent uniquement l'exclusivité des subventions pour les animations de quartier et donc pour les actions qu'ils mènent, et donc non pas forcément les ressources nécessaires pour entretenir leur propre site. Donc voilà, donc là cette association prévoit, comme c'est indiqué dans le dossier, tout un tas d'animations de quartier liés en préambule, je crois, à la Coupe du Monde de football, pour créer de l'animation de quartier et au niveau du centre. Enfin, pour répondre généralement aux questions qui ont été abordées également par les associations de parents d'élèves, mais c'est aussi une observation qui concerne l'ensemble des associations. L'attribution de subventions tient compte également aussi de la trésorerie détenue ou des réserves de trésorerie que peuvent détenir les associations. Donc effectivement, puisqu'il y a la FCPE, je pense que la FCPE a un peu de réserve de trésorerie, ce qui n'est pas forcément le cas des autres associations. Donc voilà, tous ces éléments rentrent aussi en ligne de compte. Et puis si un jour une association de parents d'élèves a vraiment un besoin ponctuel, ils sauront venir voir la ville pour exposer leurs problèmes et trouver une solution à leurs problématiques. Je pense que dans la matière, il n'y a jamais eu de problème assez nul.
Au-delà de ma question, je voudrais juste compléter. En fait, on prend l'association de cartes, enfin de commerçants de Courbevoie, donc Fouvre de l'Arche et puis le centre. Après, en tout, une subvention de 65 000 euros. Nous avons 23 commerçants au Faubourg, 53 ou 57 au centre, ça fait environ 80 commerçants. Il n'y en a plus de 800 à Courbevoie. Qu'est-ce qui justifie une telle subvention de 80 commerçants, c'est 80% de l'ensemble des commerçants. On va réfléchir à faire la communication avec les commerçants via la ville, et non pas via des associations qui, manifestement, à part une de manifestations par an, ne justifie pas le montant. Enfin, c'est une question qui, à mon sens, se justifie.
Je comprends votre question, mais en fait, je pense que, en général, il ne faut pas comparer la subvention avec le nombre de commerçants, c'est par rapport aux actions qu'ils mènent sur le quartier. Donc, l'association du Faubourg de l'Arche mène, quel que soit le nombre de commerçants qui adhèrent, vous comprendre que ça se fédérait de manière assez importante par rapport aux animations qui ont pu être faites l'année dernière. Donc, c'est vraiment des animations de quartier qui visent à créer du lien entre les habitants, les associations, les structures, les structures d'enfance ou même les structures aînées qui sont dans les quartiers. Donc les commerçants se positionnent comme des véritables animateurs de quartier. Donc voilà, ça dépasse complètement le nombre de commerçants qui peuvent exercer sur le quartier ou qui adhèrent à l'association. Et c'est la même chose pour le centre-ville.
Sans juste peut-être pour cette association beauté, donc il y a effectivement 23 commerçants, donc une mise de fonds, je crois à hauteur de 1300 euros, ce qui paraît un ratio très faible dans la contribution. Et quand on regarde le dossier, quand on examine les activités qui sont prévues, je pense que ça peut être largement confié à un conseil de quartier, puisqu'on est sur l'animation du quartier, pas l'animation commerciale. Dernier point sur les subventions aux associations. Effectivement, il y a une quinzaine d'élus qui n'ont pas participé au vote. Nous l'avons déjà dit, ils n'ont pas été les seuls d'ailleurs à le dire, nous le réitérons. Lorsque des élus se retrouvent dans l'exécutif, évidemment les textes ne l'interdisent pas, mais beaucoup de municipalités le prévoient, président, vice-président, trésorier, je crois qu'ils seraient plus que souhaitable qu'ils abandonnent leur mandat pour qu'il n'y ait pas de risque de confusion des genres. Il est quand même assez curieux d'ailleurs en France, au niveau national, on impose cette séparation partout, dans toutes les instances, dans les cas, pour le moment on laisse faire. Alors je le rappelle, il y a des villes qui le font, et ce serait, je pense, judicieux, souvenez-vous de cette association qui s'occupait du chat. Pour lesquels on a pu constater très vite que ça devenait de plus en plus confus et la séparation entre les deux fonctions d'élu et associatif de plus en plus ténue.
Il n'y a pas d'interdiction aujourd'hui à ce que
non,
les élus.
C'est vrai, c'est vrai.
Il n'y a pas d'interdiction légale. C'est un élément. Puis je reviens encore une fois, si vous voulez, sur ce que vous disiez, mais je pense que c'est bien aussi que plutôt que ce soit la ville qui fasse tout, que ce soit aussi des acteurs du quartier, que ce sont des commerçants qui prennent des initiatives et gèrent de l'animation locale. Je pense que
vous avez tout à fait raison, et donc ils sont assez grands pour le faire par eux-mêmes, sans qu'il y ait la présence d'un élu dans le bureau, par exemple. Et puis la deuxième chose, il y a d'autres acteurs du quartier qui vont émerger, j'en suis convaincu, parmi lesquels les conseils de quartier. Je pense que les acteurs d'une ville, oui, c'est à eux de prendre le relais, et je pense qu'ils sont assez grands pour le faire, sans qu'il y ait une présence d'un élu sur la partie bureau. Ça reste un principe logique.
Bien, on passe au vote. Oui, on va chez moi.
Juste une question. Est-ce que la mairie, elle a bien tous les bilans comptables de toutes ces associations?
Oui.
Est-ce que tout est clair?
Oui, madame, je vous engage, vous êtes nouvel élu. Je vous engage effectivement à prendre rendez-vous avec notre secrétariat général si vous consultez le dossier de subvention des associations sur votre disposition, sur rendez-vous. Si vous souhaitez, effectivement, les dossiers de subvention sont complets, justifiés, argumentés, avec la mise à jour juridique de l'association et les bilans comptables et les budgets. Et les engagements d'action à réaliser sur la question.
Bien, je vote. Qui s'abstient avec les remarques, j'ai abstenu, c'est bien.
Pour le
centre de tir.
Deux élus s'abstiennent pour le centre de tir, l'association de tir.
Vous l'entendez, c'est bon. Merci. Alors, continuez.
Alors, il s'agit de voter donc les taux d'imposition pour 2014. Donc, comme nous venons de le voir dans le cadre de l'équilibre du budget qu'on vient d'envisager, les taux limités à 3,5% pour la taxe d'habitation et la taxe foncière. En ce qui concerne la taxe environnementale, celle-ci est destinée à couvrir le montant des dépenses dédiées à ce service. Donc, le taux de la taxe environnementale sera maintenu au taux de 2013. Il est donc demandé au Conseil de fixer les taux d'imposition pour 2014 comme suit. Taxe d'habitation 7,62%, taxe foncier bâti 5,44%, taxe foncier non bâti 9,62% et taxe ordures ménagères 2,90%. dans le cadre du transfert de la compétence de traitement des déchets à la communauté d'agglomération Seine-Défense, de reverser partiellement la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à la CASD à hauteur des dépenses de traitement et d'adhésion dues au CIELA de représentation de
ce vote qui s'abstient. Les comptes. Merci. Dossier suivant.
Donc il s'agit du vote du budget primitif annexe de la cantine. Donc, vous avez dans le dossier des éléments détaillés donc, de la présentation du budget cantine. Les opérations en termes de dépenses d'exploitation se totalisent à 6 860 000 euros. En recettes et en dépenses, avec une reprise de résultat de 309 000 euros en 2013. Donc, le budget dégageant donc, des opérations d'ordre de 140 000 euros correspondant aux amortissements. En termes d'investissement, donc, le montant des différents investissements inscrits s'élève à 327 000 euros pour des recettes qui sont donc constituées par une reprise de résultat de 2013 et le budget d'amortissement de l'année 2014, un total donc de 327 784 euros. Le budget totalise 7 187 000 euros et donc est parfaitement équilibré à la suite de la subvention d'équilibre qui est sur le dispositif suivante, qui est donc de 3 148 000 euros, très exactement. Si je reprends dans l'opération, 3 148 000 euros. 3 148 209 euros pour la subvention d'équilibre du budget cantine. Le Conseil donc est appelé également à la constitution ou à la reprise de provision au titre de l'exercice 2013, conformément donc à l'article 2321 du Code général des collectivités territoriales et à la délibération du 14 avril 2008 qui en a défini les modalités. Concernant le budget annexe de la cantine, il est proposé une provision de 1130 euros sur risque de créance à recouvrer sur le compte de tiers. Il vous est proposé, comme pour le budget ville, de voter ce budget par chapitre afin de ne pas alourdir la procédure de vote. Il vous est demandé de procéder à un vote unique et de voter également 1130 euros de provision pour risque à recouvrer sur le compte de tiers sur le budget annexe cantine de l'exercice 2014.
C'est sûr. Oui, j'en ai juste une. En lien avec notre débat là, sur la réforme des rythmes scolaires, pourquoi du coup le budget fonctionnement, la subvention de fonctionnement diminue-t-elle? Peut-elle diminuer?
Est-ce que ça concerne très bien?
C'est pas le montant. Oui, les affaires sont sur le budget ville, en fait. Pas sur le budget ici. Voilà, complètement. Alors, je le redis avec force, les personnels concernés en plus sur la pause méridienne ressortent sur le budget ville et pas sur le budget annexe. Voilà.
C'est comme sur le budget.
Oui, parce que c'est un décès sur le.
Je crois pas.
Qui s'abstient? Et contre? Merci. Dossier suivant.
Il s'agit de procéder au vote de dissolution du budget annexe de stationnement-paiement convoi. Par délibération du 24 septembre 2013, la société SAGS a été désignée comme délégataire de service public pour la gestion des parcs et stationnements payants sur voirie et pour la gestion des parcs de stationnement en voirie. Sur un plan budgétaire, la doctrine administrative considère que lorsque la gestion des services publics industriels et commerciaux est déléguée à un concessionnaire, le budget annexe antérieurement créé n'a plus lieu d'être. L'actif et le passif de ce dernier doivent alors être intégralement repris par le budget communal qui retrace l'excédent dégagé. En accord avec les services de la trésorerie municipale, il a donc été convenu de procéder à la dissolution du budget annexe de stationnement-paiement en voirie à compter du 1er janvier 2014. Il est donc demandé au Conseil, tout d'abord, de se prononcer sur la suppression du budget annexe de stationnement-paiement en voirie et d'accepter le fait que l'actif, le passif et les résultats soient repris dans le budget principal des villes. Les comptes du budget annexe stationnement paiement en voirie seront donc arrêtés au 31 décembre 2013 définitivement.
Oui, j'en ai une. Du coup, donc, ce budget disparaît puisque on est passé en délégation de services publics. Donc j'aurais aimé juste comprendre, du coup, quel est l'impact sur le budget global. Il y a juste une disparition, donc j'ai cru comprendre qu'il y a une disparition de 2 à 3 millions d'euros du budget. Est-ce que c'est le seul impact ou est-ce qu'il y a d'autres impacts sur le budget de la ville? En gros, donc la question peut être différente, c'est quelles étaient en gros les grandes lignes de cette délégation de services publics?
Tout d'abord, l'impact sur le budget de la ville, effectivement, donc ça fait partie des mesures de bonne gestion qui ont été prises de manière justement à permettre, à travers cette délégation, de répondre déjà d'une part à une demande qui avait été exprimée par le passé par la commission, la Chambre régionale des comptes, effectivement, qui contestait le fait que la ville subventionnait effectivement de manière assez significative le budget de stationnement et le budget parking. Je rappelle que c'était une décision politique de la ville pour privilégier effectivement les courbevoisiens dans leur fonctionnement en ne mettant pas effectivement des tarifs trop élevés. Et par ailleurs, les obligations en matière comptable de comptabilité publique font que la comptabilité publique considère que le budget, le fonctionnement des budgets parking, c'est un budget donc, commercial pour lequel il y a lieu de pratiquer l'amortissement des biens immobiliers. Donc ceci entraînait donc l'attribution d'une subvention qui couvrait les grands amortissements, qui par ailleurs nous permettait d'autofinancer, mais de faiblement autofinancer, d'autofinancer en totalité les investissements courants normaux des parkings. Donc, le deuxième impact, donc c'est effectivement, il y a une économie significative entre 2 et 2,5 millions d'euros, donc qui permet effectivement d'éviter de peser plus sur le budget de la ville. Par ailleurs, deuxième élément important, donc le budget 2014 est impacté par la reprise en investissement de l'excédent donc, du budget parking. Cet excédent s'élevant donc à un total de 1 040 000 euros, dont 848 000 euros en investissement, qui figure donc dans les reprises de résultats qui ont été faites sur le budget ville.
Pas ce vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Dossier suivant.
Alors, il s'agit de la modification de la régie concernant la carte de qualité ville. Dans un souci d'améliorer le service rendu aux courbevoisiens, la ville a créé depuis 2004 la carte qualité ville CQV, permettant le paiement à distance de différentes prestations liées à l'enfance grâce à une gestion à la gestion d'un compte trésor. La modernisation de l'outil de gestion permet d'améliorer la qualité du service rendu, notamment en offrant désormais la possibilité d'inscription aux activités à distance, l'extension de la CQV aux prestations de l'établissement public Val-Courbevoie depuis la rentrée scolaire 2012-2013. En matière financière, il y avait deux sous-comptes qui existaient, qui existent actuellement, un compte d'activité quotidienne intitulé compte CQV qui permet l'encaissement des prestations historiques de la CQV, à savoir les crèches collectives, les crèches familiales, les haltes garderies, la restauration scolaire, les garderies, les études surveillées, les goûters, la classe d'environnement, et intégrant les nouvelles prestations du Val suite à l'accueil de loisirs et les maisons du Val. Deuxième sous-compte, le compte loisirs intitulé CQV+, qui permet d'encaisser les recettes des activités post-scolaires ainsi que des séjours. Cette distinction des comptes est en fait une source de confusion chez beaucoup de familles, et donc dans un souci de simplification et afin d'étendre les modalités de paiement, il est donc proposé plusieurs dispositions. Tout d'abord, de fusionner les deux sous-comptes CQV et CQV+, qui vont donc entraîner la dissolution de la régie CQV+, et de ses sous-régies annexes enseignement et Val. Deuxièmement, il est proposé d'étendre l'adhésion de la ville au dispositif PASS 92 pour l'encaissement et le recouvrement des prestations extrascolaires qui sont proposées par Val-Courbevoie. Pour mémoire, le PASS 92 est un moyen de paiement pour la pratique des activités culturelles ou sportives pour les collégiens de 6e à 3e. De modifier donc en conséquence la convention de gestion entre la ville, le CCAS et Val-Courbevoie, d'approuver le règlement de la CQV qui réactualise le fonctionnement de la carte qualité ville avec les débits
les prestations sur un compte unique CQV et les moyens de paiement pour l'extension, ainsi que donc, l'extension des moyens de paiement au chèque emploi service universel, donc le CESU, pour les temps d'activité périscolaire, l'État, et à l'accueil de loisirs du mercredi, ainsi que pour les vacances scolaires des enfants de moins de 6 ans et les garderies périscolaires du matin, du soir, du mercredi midi en maternelle et en élémentaire, dans le cadre d'un accueil limité aux heures qui précèdent ou qui suivent la classe. Il est donc demandé au Conseil de fusionner les deux comptes, les deux sous-comptes CQV et CQV+, entraînant donc la dissolution de la régie CQV+, et de ses sous-régies enseignement et val, d'approuver l'adhésion de la ville au dispositif PASS 92 pour le compte de la régie carte qualité ville, d'approuver le règlement de CQV, le nouveau règlement de la carte qualité ville, réactualisant donc le fonctionnement de la carte qualité ville avec le débit des prestations sur un compte unique CQV et les moyens de paiement, dont l'extension au chèque emploi service universel, au temps d'activité périscolaire et à l'accueil du loisir du mercredi des vacances scolaires des enfants de moins de 6 ans et aux garderies périscolaires du matin, du soir, du mercredi midi, en maternelle, en élémentaire. Enfin, d'autoriser M. le maire à signer les documents subséquents.
Questions ?
Nous tenons à souligner très positivement l'extension du PASS 92 aux activités extrascolaires pour les collégiens. C'est quelque chose que nous demandions et je pense que c'est un gros plus effectivement dans l'accession au loisir. Donc c'est bien.
Ça repasse sur le vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Dossier suivant.
Il s'agit d'une demande de subvention au Conseil général des Hauts-de-Seine pour la manifestation Les Bruyères Gourmandes de 2014. Donc, comme l'année dernière, la ville va bien évidemment organiser la foire gastronomique et artisanale Les Bruyères Gourmandes qui aura lieu le 14 et le 15 juin 2014. Le Conseil général des Hauts-de-Seine veut s'associer à cette manifestation en versant une subvention à la ville. À toute fin utile, en 2013, Les Bruyères Gourmandes ont représenté un coût de 108 633 euros en frais de fonctionnement. Les recettes se sont évaluées en ce qui concerne donc à 11 520 euros, qui correspond à la location des stands. Le Conseil général nous avait versé en 2013 une subvention d'un montant de 10 000 euros. Il est donc demandé au Conseil d'autoriser M. le maire à formuler une demande de subvention auprès du Conseil général des Hauts-de-Seine pour la manifestation des Bruyères Gourmandes 2014. Enfin, je vous informe que Mme Blandine Poulica, notre collègue, ne prendra pas ni au débat ni au vote concernant cette délibération.
Tiens, qui est contre ? Merci, M. Gimenez. Monsieur Accard.
Concours photo l'eau à Seine pour la quatrième année. La ville organise un concours de photographie baptisé cette année, l'eau en Seine. Il se déroulera du 15 mai au 15 octobre 2014. Et destiné à sensibiliser la population à la présence de la nature en ville et ainsi d'inciter les habitants de la Seine-et-Marne. Le concours est ouvert à tous les photographes non professionnels. La photographie devant être prise impérativement sur le territoire de Seine-et-Marne. Le concours est divisé en quatre catégories, enfants de moins de 12 ans, adolescents de 18 ans, adultes seniors et de 50 ans. Un jury, après appréciation de la qualité de la photo, mais aussi de la pertinence du sujet et de l'originalité de la prise de vue, choisira trois lauréats dans chaque catégorie. L'ensemble des lauréats sera récompensé par l'attribution de cadeaux d'une valeur globale de 1150 euros, premier prix de chaque catégorie, l'eau d'une valeur maximale de 120 euros, second prix, l'eau d'une valeur maximale de 80 euros et troisième prix, l'eau d'une valeur maximale de 50 euros. Des lots supplémentaires seront achetés en vue d'éventuels exécutifs. Les lots proposés seront sur le thème de la protection de la nature ou des jeux de plein air. À cet effet, un règlement pour ce concours est soumis à votre approbation. Il est demandé au Conseil d'approuver le règlement du concours l'eau en Seine et d'autoriser l'attribution pour la ville de cadeaux d'une valeur globale d'environ 1150 euros aux lauréats choisis par le jury.
Question. Madame.
Oui, je voulais savoir comment était constitué le jury.
Monsieur Picard.
Comme les années précédentes, c'est-à-dire qu'on prend les gens du service extérieur, on demande au CFJ de nous donner quelques personnes, et qui sont très actifs et tout à fait pertinents dans leur, dans leur conseil, et puis il y a un photographe professionnel.
Bien. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Dossier suivant.
S'il vous plaît. S'il vous plaît, juste un point technique. Là, la délibération a sauté. Donc, elle était le haut en scène. Nous, dans notre dossier, se retrouvait après les tarifs des activités périscolaires. C'est pour nous quand même très difficile s'il y a des changements d'ordre du jour. Si vous pouviez, effectivement, le plus possible, regarder les délibérations dans l'ordre, c'est, voilà, ça nous aiderait grandement.
Autorisation pour le dépôt d'autorisation au titre des codes de l'urbanisme et de la construction et d'habitation pour la
réalisation.
Pour la ville doit réaliser sur différents sites un projet qui nécessite le dépôt d'autorisation au titre du code de l'urbanisme et du code de la construction et d'habitation. Il s'agit des opérations suivantes. Transformation des locaux temporaires dédiés au Val-Lamartine en simple classe provisoire. Création de 4 nouveaux vestiaires avec buanderie plus stockage destinés principalement au rugby situé au premier sous-sol de l'espace sportif Jean-Pierre-Ville. Réaménagement d'un réduit du bobo de large suite à un point de non-conformité dans le cadre de la démarche Galiville, entre parenthèses, en confidentialité. Nouveau sanitaire à l'école Rouge et Lille pour la mise en conformité au vu des textes de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires. Travaux sur les traçats de l'année du quartier de Pétain sur la sécurité de la ville. Permis de démolir le pavillon jouxtant le parc de Lesson dans les Laves. Ravalement d'espace Carrefour. Il est demandé au Conseil d'autoriser M. le maire à déposer et mettre en œuvre les demandes d'autorisation suffisées.
Ça tient, qui est contre. Merci. Dossier suivant.
Monsieur le maire, pour les tarifs périscolaires, on va le voter ou alors c'est un dossier qui a été retiré?
Oui,
on va le voter.
Normalement, ça arrive après ce dossier.
Traitement biologique des odeurs et des matières organiques dans les réseaux d'assainissement et des bacs d'adresse. Avenant numéro 2, au marché numéro 11 M008. Par un marché numéro 11 M008, notifié le 16 février 2011, la ville avait confié à la société Chinovest des prestations de traitement biologique des odeurs et des matières organiques dans les réseaux d'assainissement et des bacs d'adresse sur le territoire de la commune. Ce marché est dévolu à bonne commande, avec un montant minimum de marché de 200 000 euros hors taxe et un montant maximum du marché de 600 000 euros hors taxe sur la durée totale qui prend fin le 15 février 2020. Par un plan numéro 1, une partie de ce marché a été transférée à la communauté d'agglomération Seine-des-Fonds, à savoir les prestations relatives au traitement biologique des odeurs et des matières organiques dans les réseaux d'assainissement pour un montant minimum de 80 000 euros hors taxe, un montant maximum de 280 000 euros hors taxe. La ville a conservé les prestations relatives au traitement des packs à graines dans les bâtiments communaux pour un montant minimum de 120 000 hors taxe et un montant maximum de 320 000 hors taxe. Le 1er mai 2013, la communauté d'agglomération a conclu une délégation de services publics concernant l'entretien du réseau d'assainissement sur les territoires communaux. Cette délégation retrouve notamment le traitement des odeurs dans le réseau d'assainissement. Par conséquent, cette partie du marché transférée à la communauté d'agglomération devient sans objet. En revanche, les besoins pour la ville sont toujours effectifs concernant le traitement des packs adverses. Cependant, le montant maximum des commandes seulement à 320 000 euros en taxe a été atteint. Il est indispensable que la ville puisse continuer à assurer ses prestations dans le cadre de ce marché. Ainsi, un avant numéro 2 au marché 11M008 doit se transférer à la ville la partie du marché de 800 objets pour la communauté d'agglomération, étant précisé que le montant maximum global du marché de 600 000 euros en taxe demande un marché. Au regard des dépenses qui avaient été engagées pour ce marché par la communauté d'agglomération, la ville pourra émettre des commandes à la hauteur de 31 436,33 euros hors taxe. Il est demandé au Conseil d'approuver l'avenant numéro 2 marché compte M008 à intervenir avec la communauté d'agglomération et la société Chinovest et d'autoriser M. le maire à le signer.
Il s'abstient. Qui est contre? Merci, monsieur Aka. Voilà, le tenu.
Le 15 avril 2013, le Conseil municipal a fixé les tarifs actuellement en vigueur pour les prestations de restauration, garderie et études surveillées et la date de calcul du quotient familial, à savoir le 1er janvier de chaque année. Ces tarifs doivent être revus afin de prendre en compte l'évolution du coût des différents services et activités qui concourent à l'organisation de ces prestations, notamment dans le contexte de la réforme des rythmes scolaires. Mise en œuvre au 1er septembre 2014, le mode de paiement des activités correspondant à ces tarifs prend dorénavant la forme d'une facturation unitaire à la consommation, règlement CQV réactualisé présenté à la présente séance du conseil municipal par mon collègue en charge de la délégation des finances. Après étude, les tarifs tels qu'ils figurent sur le tableau qui vous a été transmis avec la convocation à la présente séance vous sont proposés pour approbation. Il est demandé au Conseil d'approuver les nouveaux tarifs des activités périscolaires et d'approuver les modalités de calcul du quotient familial et de remboursement comme indiqué sur l'annexe 1 au projet de délibération transmis avec la convocation.
Question. Voilà.
Pas de question.
Si, si, il y a des questions, mais il faut le temps que je... Vous tournez le dos pour parler dans mon micro, je suis désolée, c'est où je parle, mais voilà. Donc, vous nous présentez une grille tarifaire pour la mise en œuvre de la réforme des rythmes et des prestations habituelles périscolaires. Mais nous n'avons pas les clés de ces arbitrages et calculs qui ont prévalu à l'élaboration de cette grille. Vous avez dû maintenant, je pense, calculer le différentiel entre le montant de fonctionnement habituel et le surcoût entraîné par la réforme des rythmes scolaires. Quel est le reste à charge pour la ville après déduction du fonds de lancement, aide de la CAF, et surtout, quel pourcentage de ce reste à charge est demandé aux parents au travers des tarifs que vous nous proposez? Le tarif unitaire de chaque prestation peut paraître anodin, mais lorsque les familles cumuleront plusieurs prestations sur une journée, la facture montera vite. Dès qu'on envisage un prix à la journée, ces tarifs sont relativement élevés. Le coût d'une journée par enfant en maternelle, incluant par exemple garderie, matin et soir, repas méridien et SAP, est de 92 centimes par jour pour la tranche AB, la plus basse tranche, quotient inférieur à 350 euros, et 7,25 euros pour la tranche médiane G, quotient compris entre 1051 et 1300 euros. Or, c'est un schéma courant de notre ville d'actif que d'avoir besoin de garderie le matin, le soir et de cantine. Nous trouvons ces nouveaux tarifs élevés et insuffisamment sociaux. Les tranches les plus basses du quotient pourront-elles bénéficier d'autres aides le cas échéant? Et qu'est-il prévu pour les familles avec plusieurs enfants? Nous souhaitons rappeler ici l'esprit de la réforme des rythmes scolaires, alléger la journée de travail en répartissant les apprentissages sur 4 jours et demi, afin de favoriser les conditions d'apprentissage des élèves, mais aussi permettre un accès plus égalitaire aux loisirs pour favoriser le vivre ensemble et développer des compétences autres que scolaires des enfants.
Moi, je suis toute nouvelle, donc je n'ai pas suivi toutes vos questions. Je vais essayer d'y répondre quand même. Hein. Voilà. Tout d'abord, la ville a décomposé la journée des enfants en plusieurs horaires. On a uniformisé les horaires des écoles maternelles et des écoles élémentaires. Donc c'est à partir de cette uniformisation qu'on est parti sur le calcul d'un tarif. Donc pour rappel de ce qui a été accepté par tout le monde, les horaires vont en maternelle et en élémentaire par une garderie de 7h30 à 8h30 du matin, ensuite le temps scolaire de 8h30 à 11h30, une pause méridienne de 11h30 à 13h30, de nouveau le temps scolaire de 13h30 à 15h45 et ensuite le temps périscolaire de 15h45 à 18h45. Ce temps périscolaire est divisé en deux. Le premier temps allant de 15h45 à 17h et le second temps allant de 17h à 18h45. Toutes les activités qui partent des activités périscolaires, le temps d'activité périscolaire, seront organisées sur ce premier temps. Le pourcentage de la ville de répartition de
cette dépense est simple. La ville contribue à 55% et les parents à 45%. Ensuite, effectivement, ça représente une augmentation si on prend la facturation à la journée, de la journée totale. Or, étant donné qu'on savait que ça représenterait une augmentation, on a souhaité organiser cette facturation au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'on a souhaité que les familles restent maîtres de leur facturation, de leur prix, leur facture tout simplement, voilà, et du temps qu'ils allaient passer, du temps qui allait leur être facturé. Donc chaque service consommé est facturé, les services n'étant pas consommés n'est pas facturé, même si l'enfant est inscrit à un TAP en début d'année, s'il ne participe pas à ce TAP, ça ne sera pas facturé. Donc au final, on peut espérer que ça ne représente pas une augmentation conséquente pour les familles, puisqu'elles vont avoir le choix de la varier selon leur possibilité.
Est-ce que vous avez le coût global?
On est parti sur 2,7 millions, c'est-à-dire que le coût pour la mairie est de 1 500 963 euros et le coût pour les familles est de 1 213 762 euros.
Mais non décompté, le fonds de lancement et les aides de la CAF.
Alors la CAF, nous n'avons aucune aide de la CAF. Tout simplement parce que pour pouvoir bénéficier de l'aide de la CAF, il fallait faire Alors, la CAF demande pour offrir aux communes une subvention l'établissement d'un projet éducatif territorial. Ce projet éducatif territorial a été fait et déposé à la DCS. Mais il n'a pas été déposé auprès de la CAF parce que la CAF demande un encadrement beaucoup plus important. Et donc, au final, en calculant avec le taux d'encadrement, l'encadrement pour les enfants, ça revenait beaucoup plus cher à la ville de demander la subvention à la CAF. Malgré la subvention, ça revenait beaucoup plus cher en termes d'embauche de personnel. Et à l'heure actuelle, nous avons un animateur pour 14 enfants en maternelle et un animateur pour 18 enfants en élémentaire. Quant aux familles qui sont dans les tranches les plus basses, je rappelle que nous restons dans la même politique, c'est-à-dire que sur les TAP, les familles ne payent rien. Elles ne payent que le goûter. C'est-à-dire que quand vous voyez TAP maternelle pour les tranches AB et TAP élémentaire, toujours dans la même tranche, quand vous voyez 10 centimes, ce n'est que le prix du goûter et non pas le prix des TAP. Les TAP sont gratuites pour ces tranches-là.
Bah, dans ce cas-là, il ne faut pas marquer TAP.
Alors, certes, mais vous avez vu que, bien sûr, que la garderie du matin,
c'est pas très clair.
Y compris pour
la garderie du matin a été étendue à 7h30. La politique a voulu que chaque service soit payant. Tout simplement.
Je pense que c'est quand même une minorité de parents qui utilisent le service à 7h30.
Donc ils ne l'utilisent
quelques minutes avant le.
Alors, c'est pris en compte. Quand je vous dis que la garderie du matin, c'est de 7h30 à 8h30, il est évident que les enseignants prenant leur service à 8h30, on ne va pas laisser une minute aux enfants pour arriver dans l'école. C'est-à-dire que le service sera facturé de 7h30 à 8h20 et on va laisser un délai de manière à ce que les parents puissent emmener sans avoir à payer quoi que ce soit leurs enfants à l'école. Et s'ils, je le répète, s'ils n'emmènent pas leurs enfants à la garderie du matin, ils ne payent pas.
Et le parent qui dépose son enfant à 8h15,
Il paye, je pense qu'on
peut attendre. Si on sait que pour 5 minutes, on va payer quelque chose, je pense qu'on peut attendre 5 minutes et demander à quelqu'un d'emmener son enfant 5 minutes plus tard.
Petit complément quand même sur ce que vient de dire Alexandrine Hoffmeux, sur le coût de ces services, on est sur des taux d'effort, puisque ça vous intéressait, le taux d'effort moyen pour la garderie du matin est à 22% du coût réel, pour la garderie du soir il est à 15%. Donc ça veut dire que ces activités sont extrêmement subventionnées par la ville. J'ajouterais que même quand on est dans les tranches supérieures, ces services restent à des taux d'effort qui sont très faibles. Donc voilà, on a bien conscience que c'est important pour toutes les familles qui travaillent.
Le taux d'effort que vous avez donné, c'est le taux d'effort moyen ?
C'est le taux d'effort moyen. Et alors, si ça vous intéresse, je peux vous donner celui de la tranche supérieure. C'est 26,3% pour la garderie du soir et c'est 38% pour la garderie du matin. Donc voilà, taux moyen, 22% garderie du matin, 15% garderie soir. Voilà.
Politique familiale. Autre tarif qui n'augmente pas, à l'heure actuelle, les enfants qui vont au goûter et qui participent à l'étude, c'est les tarifs qui n'ont pas bougé, n'ont pas évolué. C'est-à-dire que les tarifs de première heure sont exactement au même tarif qu'à l'heure actuelle.
Bien.
Alors, l'an dernier, voilà, on sait que tous ces tarifs-là ont été établis en concertation avec les parents d'élèves.
Fédération.
Oui, association et fédération.
Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci Madame Le Pen, Madame Renaud.
Indemnité de fonction des agents de quartier et des conseillers municipaux délégués. En sa séance du 15 avril 2014, le conseil municipal a fixé les indemnités de fonction du maire et des 15 adjoints au maire. Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, les adjoints au maire en charge d'un quartier ou adjoint quartier, ainsi que les conseillers municipaux auxquels le maire a délégué une partie de ses fonctions, peuvent percevoir une indemnité de fonction. Ces indemnités sont calculées dans les mêmes conditions et limites que celles indiquées dans la délibération du 15 avril 2016. En vertu de ce dispositif et avec l'effet de la date à laquelle leur délégation constitue un caractère exécutoire pour les adjoints de quartier et les conseillers municipaux délégués, il est demandé au conseil de fixer à 29,7% de l'indice brut tabinal de l'échelle indiciaire de la fonction publique le taux de l'indemnité à verser aux adjoints de quartier pour l'exercice de leur fonction. De fixer à 10,7% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique le taux de l'indemnité à verser aux conseillers municipaux délégués pour l'exercice de leur fonction. De décider qu'il sera fait application de la majoration de 15% prévue pour le calcul des indemnités de fonction des maires et adjoints des communes chefs de comté par les articles L 2123-22 et R 2123-23 du Code général des collectivités territoriales. Enfin, d'approuver les tableaux annexes détaillant les indemnités allouées aux adjoints de quartier et aux conseillers municipaux délégués.
Nous aurions aimé connaître les délégations des délégués. On n'a effectivement pas eu d'informations là-dessus.
Alors pour les adjoints, pour les conseillers municipaux délégués sont en cours de signature. Donc, vous les aurez, puisque de toute façon, on va les mettre sur les tableaux. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Abstention ? Qui est contre ? Merci. Dossier suivant, Mme Brun.
Dans le cadre de la gestion des ressources humaines, il convient de modifier le tableau des effectifs afin de l'adapter aux nécessités de fonctionnement des services municipaux et de favoriser le déroulement de carrière des agents susceptibles d'évoluer par voie de promotion interne ou d'avancement de grade. Le détail des créations, transformations et suppressions de postes vous a été transmis avec la convocation à la présente séance. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer favorablement sur ces modifications.
question. Qui s'abstient?
On a quelques...
Une question? Qui s'abstient?
Alors, on a une question, alors, dans le tableau des créations, on n'a pas compris le dernier paragraphe. Personnel de droit privé transféré à la ville par municipalisation. Donc on s'attendrait à ce que ça, quand c'est transféré à la ville, le chiffre augmente. Et en fait, vous enregistrez du coup une baisse. Donc on ne comprend pas ce point.
Sont issus de la municipalisation il y a 10 ans, d'agents issus de structures associatives. Et au fil des débats individuels, ces emplois de droit privé sont supprimés du tableau des effectifs et remplacés par les emplois statutaires.
Il y en a
3.
3 ?
Ils n'ont pas été remplacés pour l'instant.
C'est bon ?
Et on avait une autre question sur le cabinet. Est-ce qu'il est possible d'avoir la rémunération globale du cabinet au titre des... Voilà, pour effectivement ça.
On le note, madame Rallot. D'accord.
Vous avez une question?
Les deux
médecins sont...
Les deux
médecins.
Hein?
Et juste un dernier point, excusez. Et aussi une autre question, s'il vous plaît. Nous avions demandé en fait par écrit en fait d'avoir le tableau général du personnel, en fait le tableau des effectifs de la mairie. On l'avait demandé semble-t-il à Monsieur Guelpa. Voilà, on serait preneur de ce tableau général, s'il vous plaît.
Annexé. Annexé au budget. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Vous avez en même temps des décisions. Vous avez reçu la convocation à cette réunion. Les décisions prises sont sur la base de l'article L21-22-22. Juste des questions à poser.
Alors, en ce qui concerne la décision de l'aménagement du square Normandie, j'ai une première question concernant le diagnostic pollution des sols à cet emplacement qui porte la gestion d'un ancien garage.
Ça n'a pas été fait encore.
D'accord, mais ça va être.
Ça, ça va bien entendu tout à fait.
Et nous avons consulté le document de réponse donc. Et le maître d'ouvrage qui répond mentionne un cœur végétal sur cet espace, ce qui est très très bien, mais sans détail. Alors c'est peut-être aussi un peu prématuré, mais nous aimerions savoir si dans cet espace il y aura des arbres de chêne-pierre et de hautes tiges, des vrais arbres en quelque sorte, par rapport à une certaine mode des buissons et des arbustes qui prévaut dans les foires actuellement.
Monsieur
Aka. Maintenant, vous connaissez notre méthode. Tout commence par une consultation des habitants, autour, etc. Donc, on a une idée générale et ensuite elle est affinée avec ce que nous apportent les habitants.
Alors, j'ai une autre question qui porte sur la deuxième décision. Surveillance de la qualité de l'air dans les écoles. Donc, en effet, le décret du 2 septembre 2011 relatif à la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public prévoit la mise en œuvre progressive de cette surveillance, notamment dans les crèches et écoles maternelles,
avant le 1er janvier 2015, puis dans les écoles élémentaires avant le 1er janvier 2018, avant l'extension à d'autres bâtiments recevant du public. De nombreux établissements de la ville sont donc concernés. Alors, dépister et mesurer les éventuels polluants émis par exemple par les panneaux particules, les revêtements de sol, le mobilier, les cols, les peintures, etc., et rendre ces informations publiques, comme la loi le préconise, évaluer les moyens d'aération, c'est une première étape nécessaire. Mais que se passera-t-il au-delà du diagnostic? En cas de détection préoccupante pour la santé des enfants et des personnels, un remplacement des matériaux qui émettent les polluants est-il prévu? Et quelles mesures seront prises? D'autre part, qu'est-ce qui pourra être réalisé pour apurer l'air des écoles situées à proximité des axes routiers polluants, telles l'école Fallet, près des quais, l'école Lamarelle, près du boulevard circulaire, et il y en a d'autres encore de ce type à Courbevoie. Enfin, cette loi est-elle anticipée dans les préconisations lors de la construction de nouveaux établissements recevant du public? Je pense, à, par exemple, en relation avec le budget qui nous a été présenté à la maternelle Adélaïde.
Bien, plusieurs questions. D'abord, M. Spiri, éventuellement M. Acquin, si jamais il y avait quelque chose à apporter. M. Spiri, ça va.
Tout à fait. Comme vous l'avez, merci, monsieur le maire. Comme vous l'avez signalé, cette obligation en voie d'obligation légale, pour toutes les écoles maternelles, les crèches, avant le 1er janvier 2015, grâce à ce contrat, nous mettrons en œuvre tout ce qui concerne le diagnostic. Bien évidemment, on prépare un diagnostic pour qu'il reste sans suite. Donc, suite à ce diagnostic, nous bâtirons, il est public, vous l'avez rappelé, donc ce n'est pas quelque chose qui restera un truc interne. Et l'idée, c'est de voir dans les 23 écoles maternelles qui sont concernées, les 3 écoles mixtes, les 17 crèches et les 9 autres lieux, halte, garderie, jardin d'éveil, tout ce qui concerne en effet l'évaluation des moyens d'aération existants, c'est déjà très important. Les polluants, comme vous le savez, il y a 2 passages, été et hiver, puisqu'on n'a pas tout à fait forcément les mêmes données, notamment ce qui concerne le CO2. Et donc, sur ces différents items, le rapport sera accompagné de préconisations d'action. Ce que nous aimerions faire dans la foulée, c'est, puisque l'obligation légale suivante se situe sur 2018, c'est de faire dans la foulée toute l'analyse sur les écoles élémentaires et ainsi d'avoir un plan global pour les établissements, non seulement scolaires, mais aussi accueillant la petite enfance, sur la qualité de l'air. Alors, comme je vous l'ai dit, tout ce qui concerne aussi les pollutions liées à la circulation automobile sont concernées par ces analyses. Donc là aussi, bien évidemment, on pourra réfléchir aux différents moyens d'action à mettre en œuvre pour purifier l'air à l'intérieur des écoles. Et il y aura sûrement une réflexion aussi pour les écoles qui sont le plus en proximité. Vous citiez en effet le projet d'Adélaïde. Ça va de soi que sa configuration particulière donnera lieu à une réflexion aussi sur les espaces extérieurs.
Merci. Monsieur Acquin, vous voulez rajouter quelque chose?
Non, simplement qu'on a un service d'hygiène qui est vraiment très compétent et efficace. Et nous serons reposés sur Mme Lapalme-Paolino pour mettre tout ça en œuvre.
Bien, pour les décisions, c'était tout. Alors, il y avait. J'ai 2 courriers à vous envoyer, M. Esser. Un qui concerne une question que vous m'avez posée sur les décisions du maire. Vous m'avez envoyé un courrier. Ce qui concerne les décisions, vous m'avez envoyé un courrier commandé le 18 avril dernier. Je vais vous envoyer un courrier, ça va être présent. Donc, ça, officiellement, c'est bon. Le deuxième, je vous ai laissé un courrier sur la zone UE, puisque vous avez. Donc, saisi la CADAP, donc je vais vous répondre aussi à ça. Et la question orale que j'ai reçue, j'ai une petite gêne parce que ce courrier est signé par Mme McLeod, qui n'est pas une élue municipale. Et il est préférable que vos questions, pour la prochaine fois, soient plutôt posées par un élu municipal, si je peux pas. Voilà. En attendant, c'est terminé. Le conseil, bonsoir à vous.
Ça
veut dire que les questions orales ne sont pas retenues.
Non, je ne sais pas, je les ai, mais. Non, d'abord, ils sont arrivés. On va être là, qu'elle dévoile enfin, là aussi.
Ah, très bien.
Donc, il faut juste que ça soit un comme ça, c'est pas grave. Mais la prochaine fois, on va prendre aussi
ça. On reçoit les délibérations avec une excusez, mais votre rigorisme d'un côté et laxisme de l'autre, il y a